On va dérouler un autre fil. Ce fil ou cette bulle, ça va être la fidélité, ce qui, à mon sens, est incapable d'être fait par un travail universitaire. Parce qu'en quelque sorte, ce texte d'Artaud et Paul que vous avez écrit, c'est comment être fidèle, comment rester fidèle aux personnes, aux œuvres, et c'est aussi comment ne pas trahir. Mais ça, et ça, c'est vous, justement, c'est vous, Bernard Noël, ça. Parce que je dis fidélité, car dans ce texte Artaud et Paul, qui est écrit en trois moments, en 96, 2001, 2003, vous donnez la raison de pourquoi vous l'avez publié. Vous écrivez en évoquant la publication, et à un moment vous dites, bien que je la considère comme indispensable à l'acquittement d'une dette. Alors de quelle dette s'agit-il? Est-ce que c'est celle de l'amitié pour Paul? Est-ce que c'est celle de sa fidélité à elle pour Artaud? Ou alors est-ce que c'est celle du fait que vous avez pu lire Artaud grâce à Paul? Ou c'est peut-être les trois à la fois également?
Oui. Si vous voulez, j'ai pas eu conscience de lire Artaud grâce à Paul, parce que, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à lire Artaud à cause de ce vague contact en point d'interrogation que j'ai connu à Rodez. Et arrivé à Paris, j'ai essayé, donc je suis allé lire Artaud à la Nationale, puis j'ai essayé d'acheter peu à peu ses livres. Bon. Et ma dette, si vous voulez, ça a été pour moi une surprise de recevoir cette lettre à un ami. Parce que je ne pensais pas que Paul puisse me faire cette espèce de cadeau qui était de me confier ce qu'elle a écrit de plus vif sur son rapport, enfin, ou de plus intime sur son rapport justement avec ce travail accompli sur les manuscrits d'Artaud. Donc j'étais resté avec l'émotion d'avoir reçu ça, disons. Je ne me rappelle plus de quand date cette lettre, mais sans doute du début des
86, je crois.
86, oui. Peut-être. Oui.
On peut regarder dedans, je pense. Parce que c'est daté. Allons-y. Hop. 29 janvier 86.
Voilà. Et donc, quand j'arrive à New York en 96... Et j'ai la surprise de voir qu'il y a toute une série de manifestations sur Artaud, autour d'Artaud, pardon, et que je dois intervenir le dernier. Évidemment, ça me fiche la trouille, vraiment, parce que c'est vrai, je ne souhaitais pas m'exprimer sur Artaud autrement que ce que j'avais fait, c'était minime, en publiant Prével, et en publiant et en préfaçant Prével. Édition que j'avais fait d'ailleurs relire par Paul pour voir si je disais des bêtises quant aux notes, enfin à l'histoire, etc. Paul d'ailleurs n'aimait pas beaucoup Prével.
C'est ce que vous dites.
Et donc je me dis, au fond, si je fais quelque chose, si j'arrive à faire quelque chose, ça ne peut être que essayer de rendre à Paul ce qu'elle... un peu justice, disons, puisqu'elle n'est présente nulle part dans les œuvres. Alors voilà ce qui m'a conduit à écrire cette première partie d'Artaud et Paul. Mais je l'ai écrite en effet à New York, où je suis resté, et dans diverses universités où je suis resté, je suis resté près d'un mois, je crois. Donc, j'ai douté d'y arriver pendant assez longtemps. Puis un jour, ça s'est dénoué, j'ai pu écrire cet Artaud et Paul. Voilà. Et je trouvais que c'était la moindre des choses. Après tout, personne n'a souligné le rôle. Enfin, même si on le connaît, je pensais qu'il fallait au moins l'inscrire quelque part. Ensuite, évidemment, j'étais gêné à l'idée d'invoquer ce qu'elle dit de notre rencontre et des raisons pour lesquelles elle m'écrit cette lettre. Donc ça, je l'ai gommé quand j'ai lu ce texte à New York. Et après, quand même, j'y suis revenu parce que je pouvais pas, en quelque sorte, gommer ma raison de m'adresser à Paul et en fonction de la relation que nous avions pu avoir. Donc je suis revenu là-dessus en citant ce qu'elle dit, et dont je n'avais pas le moindre souvenir. En plus, c'est étrange, parce que si c'était aussi marquant, ça aurait dû être marquant pour moi aussi, donc ça je l'avais gommé complètement. Donc ça fait l'objet d'une deuxième partie, mais enfin très brève, il me semble. Et ensuite, quand Michel Suria m'a proposé de publier ce texte sous forme de volume, je me suis dit, il faut quand même que j'ajoute autre chose, ou que je revienne là-dessus. Donc j'ai essayé de revenir là-dessus parce que je ne pouvais pas gommer non plus les circonstances. Enfin, c'est pas... Donc, il fallait que je raconte pourquoi et comment ce texte avait fini par nécessairement s'écrire. Voilà.
Vous avez parlé de Michel Suria. Je voudrais qu'on tire un autre fil, une autre bulle, et ça serait celui de la relation intellectuelle que vous avez avec Michel Suria. Alors, vous avez écrit la préface de Exit pour ce texte de Michel Suria qui a été réédité aux éditions Farago avec Les Noyers. Michel Suria, lui, a écrit une préface de la réédition de Les Premiers Mots, donc un texte chez Flammarion. J'avais noté, et Michel Suria aussi a écrit La Bête à mots, un texte vraiment très 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 intéressant dans la revue Fusée, qui a été réédité après dans son texte Humanimalité. Et je vais vous citer ce qu'il écrit sur vous. Pour qui écrit ? Et pour qui écrit pour s'en tenir à la mort, il n'y a pas de meilleure preuve qu'il écrit pour rien. Écrire pour rien est l'épreuve même de la littérature et de la pensée. Bernard Noël l'endurait plus que quiconque. Écrire pour rien.
Je suppose quand on entend cette phrase, on l'entend forcément mal. Parce que c'est en écrivant pour rien qu'on écrit pour quelque chose, je dirais. Donc... je suppose que dans un premier temps, on entend la gratuité de ce rien. Or, le rien est ce que l'écrivain affronte, s'il affronte vraiment le travail de sa langue. Je pense que c'est pas un hasard si Mallarmé, la crise de Mallarmé, par exemple, peut se résumer dans cette confidence. En creusant le verre, j'ai rencontré le néant. Bon, évidemment, c'est un peu bref. Mais cette brièveté-là, comment dirais-je, définit un abrupt et un abîme qu'il me semble être au centre de l'entreprise d'écrire, laquelle entreprise n'a évidemment pas grand-chose à voir avec tout le décorum dont on la part dans les médias ou même dans les manuels de littérature. Donc je pense que, je sais pas si je pense qu'Artaud affronte le rien quand il produit beaucoup et quand il transforme sa vie en écriture. Il y a une autre chose qui m'a frappé, d'ailleurs pas, je crois que j'y reviens dans le Thévenin, dans le Artaud et Paul, mais c'est le sentiment que... sous l'écriture, comme toute activité artistique ou autre, nécessite un investissement vital. L'investissement vital étant tout simplement le temps mis à faire une chose. Et ce temps mis à faire une chose me paraît être comporter une certaine part de sacrifice au sens fort du terme, et pas nécessairement religieux. Enfin. Je veux dire, la religion est peut-être du sacrifice, mais le sacrifice n'a pas besoin de la religion pour exister. Et je me suis souvent demandé si, au fond... Alors ça, c'est le sacrifice qu'aurait fait Paul, c'est le sacrifice de son temps. Le sacrifice de ce temps étant indispensable pour la révélation du texte d'Artaud. Mais il se passe toujours un peu, pour tout le monde, cette chose qui est que le temps... Il y a un temps mis à faire... un temps mis à faire la chose. Et je me demande si c'est pas grâce à ce temps mis dans les choses qu'on peut communiquer avec elles. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des liens intellectuels que vous avez avec Michel Soria? Parce que bon, il y a quelque chose qui, il y a plusieurs choses qui vous unissent, cette fidélité, des idées politiques aussi. Mais moi, ça serait plutôt une idée de la langue, j'imagine, ou une idée de la littérature qui vous unit. Je prends juste les titres. Hein. Vous écrivez une préface à Exit de Michel Soria, préface qui s'intitule Prier à la langue. Michel Soria préface Les premiers mots. Et écrit un texte à votre propos intitulé « La bête à mots ». Alors, c'est quoi ce qui vous unit dans la langue ? Là, il y a quelque chose.
Oui, ça c'est difficile à dire, je dois dire. Parce que je sens, si j'ose dire, mieux la langue de Michel que je ne sens la mienne. Tout simplement parce que je ne sais pas si on sent l'univers dans lequel on est engagé. Je veux dire que l'écriture procède de la lecture. Enfin, un écrivain est quelqu'un qui lit et qui se relit. Et l'écriture progresse à travers la relecture de ce qui précède, en quelque sorte. Et qui n'est pas de l'auto... qui est le contraire de l'autosatisfaction, qui est une espèce de critique, un mouvement critique continu, quoi. Donc, c'est peut-être ce que je partage avec... Michel, c'est ce mouvement critique qui s'applique à la langue, à l'écriture, qui s'applique aussi aux politiques, parce que, me semble-t-il, il me semble que l'un des intérêts principaux de la revue Ligne, c'est qu'elle ne néglige pas le terrain politique et qu'elle le rend inséparable aussi bien de la pensée philosophique que de l'écriture. Enfin, comme activité, comment dire, essentielle, quoi.
On va creuser encore. On n'en a pas terminé avec ce sujet. Ce que vous écrivez dans l'outrage aux mots, alors là, je vais vous citer assez longuement. « Comment traiter ma phrase pour qu'elle refuse l'articulation du pouvoir ? Il faudrait un langage qui, en lui-même, soit une insulte à l'oppression. Et plus encore qu'une insulte, un non. » Comment trouver un langage inutilisable par l'oppresseur ? Une syntaxe qui rendrait les mots piquants et déchirerait la langue de tous les Pinochets. Voilà ce que vous écrivez en 1975. Donc en fait, c'est comment écrire, comment se créer une langue qui ne soit pas compromise. Où en êtes-vous avec ça ? Où en êtes-vous d'autant plus qu'il y a le château de Seine qui est monté en théâtre ?
En théâtre. Où j'en suis, c'est que c'est vrai que si vous êtes saisi par le fait que votre langue obéit automatiquement, spontanément, à des structures qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont le résultat d'un mouvement historique et le résultat d'une coïncidence, disons, entre la langue et l'époque, il y a de quoi être inquiet parce qu'on se rend compte que malgré vous, cette langue procède par articulation qui vous échappe et qu'il faut une conscience extrêmement sans cesse ravivée pour percevoir ne serait-ce que la présence de cet ordre, si je puis dire, de cette mise en ordre automatique qui vous échappe. Et j'en suis à, comment dire, à la conscience un peu désespérée de ce phénomène.
Ce que vous disiez peut-être un peu hier soir, oui. Aux questions des spectateurs après la pièce.
Hier soir, j'ai eu un sentiment...
d'incompréhension, peut-être ?
Non, non, pas du tout, parce que les gens étaient chaleureux. Je veux dire
non, c'est parce qu'il y avait des rires dans la pièce, et que peut-être qu'elle a été... Il y avait peut-être de la dérision dans cette pièce, alors que le texte est dur et âpre.
Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une cocasserie qui était une manière de faire passer la chose. Il y a une cocasserie et une... C'est vrai qu'un jour, j'ai été frappé par une espèce d'apostrophe que m'avait faite Denis Roche. Et Denis m'avait dit « Ah, laisse tomber le... » Enfin, je ne sais plus... laisse tomber le politique à propos de, du château et fie-toi plutôt à la jubilation, quelque chose. Il m'avait dit, au fond, c'est beaucoup plus de la jubilation, ce texte, que de la politique, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça m'avait touché, parce que... Non, ça, c'est peut-être, si vous voulez, parce que... à cause du procès, de toutes ces histoires, je... l'idée que, du fond politique, au fond, était mon, ma justification, un peu. J'avais pas envie d'être un pornographe, quoi. Donc, ce fond politique, est, il existe. Si vous voulez, par exemple, dans, dans la représentation scénique, le politique me gêne. Me gêne non pas pour ce qu'il dit, mais parce qu'il me semble qu'il est trop... trop didactique, au fond.
Et puis qu'on le cherche, du coup, on entend cette, les petites phrases, parce que c'est, ça procède par petites phrases. Ah, une petite phrase. Ça fait sourire, du coup, on se dit, ah, bah, c'est par rapport à l'actualité. Mm. Et puis, du coup, on va chercher d'autres petites phrases après.
Enfin, en réalité, il n'y en a que deux ou trois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a l'image qui m'a. Enfin, qui est assez bouleversante de cette fille qui tient en laisse un prisonnier et qui a l'air de... épanouie.
Oui, là, on était complètement dans le château de Seine. Enfin, on pouvait qui pensait effectivement à cette que, image-là.
C'est vrai que ces images-là, enfin ces images, ces fameuses images de la torture en Irak, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ça a l'air de photos de vacances, enfin de souvenirs de vacances. C'est fou.
Pris avec un appareil jetable quasiment. Ouais.
C'est
ces photos qu'on se montre entre amis une fois qu'on est rentré chez soi.
Ouais. C'est... Donc c'est la banalité, ouais,
complètement
terrible.
On va juste se construire une autre petite bulle ou tirer un autre petit fil juste à côté de celui-là, parce qu'il me semble que qu'entre vous et Pierre Guillotat, il y a un parcours commun qui se rejoint. Bon, cette présence de la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine. La censure, puisque Pierre Guillotat a été censuré également pour Eden, Eden, Eden. Et donc vous avez dû le subir pas seulement par un procès, mais c'est, ça fait autre chose, quoi, comme censure. Parce que vous avez dit hier soir que vous vouliez écrire trois parties pour le château de Seine, et donc que le château de Seine ferait un ensemble, et que, en fait, le procès et la censure, vous. En fait, vous ne souhaitiez plus le placer dans un ensemble, quoi. Et peut-être que ça a eu des... Donc la censure a des effets quand même qui sont, oui, autres mais... qu'une interdiction d'un texte. Hein.
Non, c'est plutôt le fait que je ne voulais pas avoir l'air d'exploiter le succès du château de Seine, qui a joué comme sens. C'est une autre forme de censure. Si vous voulez, hier, au fond, à un moment, j'ai pensé... Mais... Quand on parle, on perd le fil et on répond à des questions. Enfin bon, on s'égare. Mais je pensais qu'aujourd'hui, je ferais un éloge de la censure. La censure avec un C. Enfin, la censure.
Bien sûr, parce qu'il y a votre jeu avec la censure.
La censure, avec un S, tout simplement parce que la censure, ça m'a frappé quand je suis allé à l'Est, enfin à l'ancien Est, après, je ne sais plus, en 91 ou 12. 12, je crois. Si vous voulez, j'avais fait une enquête en. Je voulais faire une enquête sur ce que devient la culture quand arrive la liberté. Enfin, liberté, entre guillemets. Donc j'ai fait ce travail en Pologne. Je voulais le faire dans diverses ex-démocraties populaires, mais je n'en ai pas eu les moyens. Et il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé en Pologne, donc c'était, j'avais rencontré une poétesse qui n'est pas, malheureusement pas traduite, mais qui est assez populaire là-bas, qui s'appelle Julia Hartwig, et qui, avec son mari, incarnait la résistance au régime, entre autres parce qu'ils avaient fait une anthologie poésie américaine à l'époque. Et dans la conversation, cette femme m'a dit tout à coup, mais je crois franchement, sans se rendre compte de ce qu'elle me disait, elle m'a dit, vous comprenez, aujourd'hui le problème, c'est qu'on ne sait pas où est l'ennemi. Et je pense que c'est ça, notre vrai problème, c'est qu'on ne sait pas où est l'ennemi, parce qu'il est partout, mais il est partout si discrètement qu'on ne l'aperçoit nulle part. Alors que justement, quand il y avait la censure, et la censure, elle a régné...
Ça représentait le pouvoir.
Non, mais je veux dire, personne n'était censuré sans qu'il le sache.
Effectivement.
Donc, du fait qu'on savait qu'on était censuré, on a inventé la contre-censure. Et on peut dire que toute la culture européenne est née dans la contre-censure, y compris chez nous. Je veux dire que du XVIe siècle au XXe, la censure a régné. Ça n'a pas empêché que la littérature existe. Et je pense même qu'elle a probablement été renforcée par ça. Parce que ça aiguise la conscience et ça aiguise l'imagination, ça aiguise toutes les vertus qui sont à la base de l'écriture, si je puis dire. Je me rappelle un voyage à Prague que j'ai fait dans l'hiver 80. J'ai rencontré là des gens, entre autres quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, qui avait publié en samizdat et traduit la correspondance de Baudelaire. Vous imaginez l'amour qu'il faut pour publier à 10 exemplaires, parce que c'était le maximum qu'on pouvait faire sur une machine à écrire, puisqu'il n'y avait rien d'autre que des machines à écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur, enfin tous les trucs dont on dispose aujourd'hui qui permettent de multiplier les textes. En mettant des carbones, on arrivait à faire 10 exemplaires.
C'est sûr que c'est notre relation au texte qu'actuellement...
Vous imaginez l'amour qu'il faut, ouais, quand même, l'engagement, le temps, enfin, etc., etc. Donc la censure, aujourd'hui je serais tenté de faire l'éloge de la censure,
avec un...
celle qui s'auto-dénonce en s'appliquant, quoi.
On continue un petit peu sur Guyotat. Donc je disais que vous aviez il me semblait en tout cas que vous aviez un parcours commun tous les deux, notamment donc par la fidélité également, cette intransigeance, ce refus devant la domination, et ce travail de placer la littérature vraiment à un point d'intensité. Alors ma question, c'était, est-ce que vous lisiez ces textes?
Oui, ben, si vous voulez, pour moi, très sincèrement, Le tombeau pour 500 000 soldats, je pense que c'est un des plus grands livres de la littérature française, que je mettrais même au-dessus de Sade, enfin, pour indiquer une filière, ça n'a pas grand rapport avec Sade, sauf une violence, sauf la violence, enfin une certaine violence où le sexe est a une place absolument indispensable. Mais peut-être d'ailleurs le sexe a-t-il forcément une place indispensable dans l'expression de la violence?
Parce que je reviens à cette idée de langue compromise, parce que vos deux œuvres sont sensiblement différentes. Il a choisi une autre voie que la vôtre. Il a choisi vraiment de modifier la langue, de lui rendre son rythme. Quelle lecture faites-vous de textes, par exemple, comme Progéniture?
C'est quelque chose qui me dépasse, je dois dire. Mais là, je peux essayer d'indiquer où est peut-être la différence. Moi, je suis né dans une famille paysanne et j'ai en quelque sorte dû conquérir ma langue, mon français. Et mon français ne peut être que le meilleur français possible, si j'ose dire. Tout simplement parce que il y avait pour moi une urgence. Ça m'est difficile de dire pourquoi. Enfin, le mot urgence, mais situe bien ce que je veux dire. Peut-être devrais-je l'expliquer davantage, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Il y avait une urgence à aller... comment dire, vers la mise en clair, à travers une langue qui est plus... enfin, il me semble ma langue est plus... du côté des Lumières, je veux dire, 18e siècle, que du côté de l'avant-garde, voilà. Mais parce que à cause de cette urgence, je ne sais pas comment dire ça plus clairement.
C'est une langue qui vous parle pas, en gros.
C'est pas qu'elle me parle pas, c'est que j'avais pas le temps, si vous voulez, de faire ce genre d'expérience, au fond.
D'accord.
Mais que j'admire. Enfin, il faut aussi une certaine obstination.
Oui, complètement, oui. C'est un dévouement à la littérature.
Et cette obstination, je l'admire, d'autant qu'elle est... elle est à la fois reconnue et elle est à la fois coupée, forcément coupée. Bon. Alors moi, j'avais Je ne sais pas si je puis dire que c'est politique, parce que c'est sans doute que c'est pas plus. Si vous voulez, ma clarté n'est sans doute pas plus lisible que son obscurité, si je puis dire. C'est ça qui m'intrigue d'ailleurs. Si vous voulez, alors, hier, je ne sais plus qui me faisait repenser à un truc que j'ai connu vers 75, où j'avais été invité dans un congrès, une espèce de congrès du Parti Socialiste, un congrès culturel, enfin plutôt des journées culturelles organisées par le Parti Socialiste en 75, et où j'avais assez vite compris que si on m'avait invité, c'était pour représenter le couillon qu'on lit difficilement, quoi. Et ensuite, je me rappelle, il y avait des bibliothécaires qui étaient venus m'expliquer qu'ils essayaient de faire lire mes livres, mais que les gens les rapportaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Et alors là, j'ai cru comprendre quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans un français qui est limpide ? Et je crois que ce qu'on ne comprend pas, c'est une certaine vitesse. Si les choses vont vite, parce que si le récit va vite, puisque disons que ce qui est le plus clair, c'est le récit, après tout. Si le récit va vite, il y a quelque chose qui fait que il faut que l'attention du lecteur soit mobilisée pour que ça soit, pour que cette clarté soit partagée, si je puis dire. Et alors là, il y a ce qui se pose aujourd'hui. Il me semble que si je commençais à écrire aujourd'hui, j'aurais sans doute beaucoup de mal à publier mes livres. J'imagine, pour cette raison-là, même puisqu'on publie du romanesque plutôt que du pensif, disons. Et oui, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, dans le monde qui s'est construit depuis 20 ans, ce monde va absolument vers la passivité. Je veux dire, le média principal étant la télévision, le spectateur de télévision n'a besoin que d'être passif, puisque le flux pénètre par ses yeux et remplace dans l'espace mental ce que l'espace mental pourrait produire. Or, c'est vrai qu'il n'y a pas de lecture possible. Mais il n'y a pas non plus d'amour possible sans attention à l'autre et donc sans un effort partagé, quoi. Donc la littérature nécessite un certain effort.
Tout à fait.
Qui aboutit à un plaisir, enfin j'espère. Mais c'est aussi l'effort que fait l'écrivain, c'est l'effort que fait l'amoureux. Après tout, s'il n'y a pas d'attention à l'autre, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a dans l'amour. Enfin bon...
J'aurais juste une... Pour creuser encore un petit peu, pour revenir à l'outrage aux mots, à cette idée de langue compromise, et parce que c'est vraiment une idée forte qui me semble aussi bien pour vous que pour Guyotat. Et pour vous, est-ce que votre langue ou la langue de Guyotat n'est plus compromise ?
Non, c'est vrai que peut-être que Guyotat invente sa langue pour échapper à ce que vous dites, à cette compromission générale. Alors, lui essaie de sortir, dans l'épaisseur de la matière langagière ou linguistique. Et moi, j'essaierai de sortir... Je ne sais pas comment dire ça, c'est que je tiens aussi à risquer la compromission, parce qu'elle est notre lot commun, donc à ne pas échapper au danger d'être dans le monde, oui, de la compromission, tout en essayant évidemment de la contrer au fur et à mesure. Mais...
Parce que le danger, c'est... À se créer une langue qui n'est pas compromise, c'est que finalement c'est tellement plus compromise que plus personne
n'y a accès.
C'est le risque toujours dans les textes de Guyotin.
C'est vrai. Mais alors, ça passe mieux s'il le parle, s'il parle sa langue, s'il à la fois la déclare et la déclame. C'est important, puisqu'il y a le bruit de la langue. Le bruit de la langue est important. Et ce bruit a aussi un sens qui justement peut décompromettre la langue, parce que tout à coup on n'est plus dans le... Oui, on est dans la matière, oui, la matière à la fois sonore, et peut-être plus sonore que sensée d'ailleurs.
Je vous remercie vraiment infiniment, Bernard Noël.